Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonjour à tous, vous allez bien? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et que vous êtes toujours fidèles à notre émission quotidienne de la Voix de l'Indonésie en langue française. Je m'appelle Yubi Suryanto et on va être ensemble pendant une heure aujourd'hui, samedi, il est 3h du matin du temps à Jakarta. Ces auditeurs et auditrices, ce soir le programme commence par le journal, suivi du rendez-vous de presse, aujourd'hui dans l'histoire, la mise au point. Et puis on vous présente le rappel de l'actualité. Et puis on vous propose la rubrique hebdomadaire qui sera cette semaine sur le magazine culturel et suivi par l'Indonésie en couleur. Nous finirons notre émission la rubrique distraction, c'est-à-dire le magazine musical indonésien. Je laisse la parole à mon ami qui va vous présenter le bulletin d'information.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Chers auditrices et auditeurs, voici un journal pour samedi. L'Indonésie participera à l'exposition internationale de l'énergie renouvelable à Astana au Kazakhstan en 2017. Cette exposition présentera les innovations récentes de divers pays et institutions dans le domaine des énergies renouvelables. Selon le commissaire national de l'exposition 2017, en tant également le directeur général de l'énergie nouvelle et renouvelable, Rida Mulyana, le but de la participation de l'Indonésie est de promouvoir l'Indonésie dans le monde. En outre, cette exposition peut être un forum pour élaborer une politique nationale pour développer l'énergie propre pour la communauté. Il est notre événement international très approprié pour promouvoir l'Indonésie dans le monde. L'Indonésie peut profiter de sa participation avec les objectifs suivants. Le premier, pour progresser les découvertes de l'énergie propre. La seconde, promouvoir le développement du tourisme. Le troisième, attirer les investisseurs étrangers dont nous vendons vraiment. Le quatrième est l'interaction avec le monde de sorte que nous élargirons la coopération bilatérale et multilatérale. La cinquième est d'introduire l'Indonésie à la communauté internationale. Rida Mulyana a expliqué que le domaine des énergies renouvelables, mais aussi l'Indonésie afficherait les produits de la culture, les commerces et le tourisme. Plus tôt, l'Indonésie a participé à de nombreuses expositions internationales et la dernière exposition s'est tenue à Milan, en Italie, avec le thème « État du monde ». L'exposition 2017 qui se tiendra à Astana du 1er juillet au 31 septembre sera visitée par 5 millions de visiteurs. Thème « Avenir énergétique », l'exposition qui a eu lieu à Astana le 1er juillet au 31 septembre, il y avait 75 pays et 14 organisations internationales qui ont confirmé leur participation. Le président Joko Widodo a dirigé la réunion limitée pour discuter la préparation de la visite d'État dans 4 pays européens. C'est ce qu'a affirmé le secrétaire du cabinet Pramono Anung lors d'une conférence de presse des résultats de la réunion au bureau présidentiel vendredi. Pramono Anung a déclaré que la visite d'État en Europe se concentrerait sur la coopération économique, mais le problème des derniers développements politiques comme au Moyen-Orient et le terrorisme seront également discutés. Le ministre indonésien du Commerce, Thomas Trikaselembon, a affirmé que la visite du président en concernait les nombreux aspects commerciaux. Les résultats concrets qui seront atteints sont l'achèvement de la passe initiale à propos des négociations de l'accord de le partenariat économique global ou CEPA. Union européenne, Indonésie, selon lui, CEPA est une coopération économique géante, car elle implique 28 membres de l'Union européenne avec une population totale de 530 millions de personnes et l'économie d'un montant de 18,5 milliards de dollars américains par an. Le vice-ministre des Affaires étrangères a enfin affirmé que la visite du président d'un 4 pays européens visait à renforcer le partenariat avec l'Union européenne ainsi qu'introduire l'Indonésie comme pays ouvert et compétitif. Fahir a également révélé que la visite du président à l'Union européenne était une nouvelle histoire, parce que le président Joko Widodo rencontrera trois dirigeants, à savoir la Commission européenne, le Conseil européen et le Parlement européen. L'Indonésie, comme un État démocratique avec la plus grande population musulmane dans le monde, doit participer activement à la paix au Moyen-Orient. Le professeur de l'Université islamique d'État, Sunan Kalijaga Yogyakarta, Amin Abdullah, a déclaré jeudi que l'Indonésie peut tirer parti de la diplomatie neutre et active. Selon Amin Abdullah, l'Indonésie a besoin de parler sur la scène internationale en partageant des idées et des solutions. Il a dit que c'était difficile pour l'Indonésie à jouer un rôle dans les efforts des pays dans la zone du Moyen-Orient. Mais l'Indonésie peut fournir ou partager des exemples de cas dans les efforts de défendre la démocratie au milieu de la diversité existante. L'Indonésie peut partager des expériences d'unité. La régence Bojonegoro Javaès, élue en tant que le représentant indonésien comme la région pilote du gouvernement régional ouverte. La résidence Bojonegoro, la ville de Seoul en Corée du Sud et Tbilissi en Géorgie sont les régions pilotes pour représenter l'Asie. Bojonegoro est élu avec 13 villes dans le monde entier à partir de 45 villes qui enregistrent. Selon les raisons, Bojonegoro Suyoto est d'accord sur la transparence et la participation du public dans l'administration locale. Pendant ce temps, le directeur exécutif du Forum international de ONG sur le développement indonésien, Sugeng Bahagio, a apprécié l'élection de Bojonegoro comme un pionnier du gouvernement local ouvert. Le gouvernement local est un pilier de l'Indonésie. Le dernier, l'Indonésie doit se préparer à la présence de la technologie des piles à combustible ou fuel cell qui a commencé à être appliquée à une variété d'équipements de l'activité humaine, a déclaré le chercheur de l'Agence pour l'évaluation et l'application de la technologie BPPT, Jarod Raharjo. La technologie de piles à combustible est faite par de nombreux pays en raison de leur source d'énergie respectueuse de l'environnement, comme par exemple la production des voitures à hydrogène à pile à combustible commencée à largement distribuée par les grands fabricants en Indonésie. La technologie des piles à combustible est déjà utilisée pour la production d'électricité dans la Tur Base Transceiver Station ou BTS de certains nombres d'entreprises d'opérateurs. Chers auditeurs, c'était notre journal aujourd'hui. Bonsoir à tous, merci d'écouter La Voix d'Indonésie. Voici le revue de presse. Divers événements importants qui se sont passés pendant une semaine ont été écrits par les quotidiens apparus à Jakarta dans la revue de presse. Nous commençons avec le quotidien Kompas qui a écrit dans son éditorial jeudi 14 avril sur « Trouver la solution de la prison ». Il faut apprécier la décision du ministère de la Justice et des droits de l'homme de renvoyer le chef de la prison et le chef de la sécurité de la classe 2B, Lubuk Pakam, car ils ont construit la salle de karaoké pour les trafiquants de drogue en prison. Selon le directeur général du ministère des services correctionnels, Iwayan Kadusak, il est incompatible avec l'esprit de l'éradication de la drogue dans la prison. Concernant de ce problème, selon le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, Yasona Laoli, à la cause de ce problème, le nombre de prisonniers dépasse la capacité. Le nombre d'employés n'est pas équilibré avec le nombre de prisonniers. Leur bien-être trop faible et leurs compétences sont insuffisantes. Selon le ministre Yasuna Laoli, ces problèmes peuvent être résolus, mais on a besoin de fermeté et volonté réelle. Le criminologue de l'Université de l'Indonésie, Adrianus Meliala, a dit que le problème de prison était très complexe, mais il n'était pas encore résolu sérieusement. Cependant, le quotidien Republica a écrit dans son éditorial vendredi 15 avril « Holding et les entreprises publiques qui sont efficaces ». La ministre d'entreprises publiques BUMN, Rini Sumarno, est sûre que la mise en place de holding des entreprises publiques de l'énergie sera mise en œuvre cette année, parce que son étude a été achevée. Selon le ministre Rini, tous les processus sont en cours, y compris le cadre juridique. Les entretiens avec le ministre des Finances, Bambang Brojonegoro, et les règlements gouvernementaux concernés seront bientôt soumis au président Joko Widodo. Selon Republica, cette année, on va former 6 holding entreprises publiques, entre autres les entreprises publiques dans l'infrastructure, l'exploitation minière, l'énergie, la banque et l'énergie renouvelable. Selon Republica, les entreprises publiques BUMN doivent être gérées professionnellement. Il a besoin de soutien pour que BUMN puisse devenir l'entreprise de classe mondiale. Nous finissons la revue de presse avec le quotidien Tempo. Le titre de son éditorial le vendredi 15 avril est « La tragédie des sauviciers de taxes ». Deux agents des impôts à Gunung-Sitolinya, Sumatra du Nord, sont morts en raison d'être poignardés par Agusman Lahagu, un commerçant en caoutchouc qui ne paye pas de taxes. Cet incident doit être étudié approfondi. Il a fait deux mots à la fois, d'abord tuer la fonctionnaire qui était en service, deuxièmement les arriérés d'impôts sur le revenu jusqu'aux 14 milliards de roupies pendant deux ans. Selon Tempo, les collecteurs d'impôts doivent avoir la sécurité tant de la police nationale ainsi que les forces armées d'Indonésie TNI, enfin la direction générale des impôts, le ministère des Finances et la police ont établi la coopération. Malheureusement, cette coopération n'est pas utilisée optimale. Ses amis, c'était la revue de presse de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, nous allons vous raconter dans notre programme aujourd'hui dans l'histoire de la Voix de l'Indonésie de l'édition 16 avril. On va commencer le 16 avril 1917, Lénine rentre en Russie. Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine, après 10 ans d'exil, quitte la Suisse pour rentrer en Russie. Le chef de Bolchevik, accompagné d'autres révolutionnaires russes, fait une entrée triomphale à Petrograd. Alors que le tsar Nicolas II a été forcé d'abdiquer un mois plus tôt, la révolution d'octobre se prépare. On chance le 16 avril 1943, découverte des effets du LSD. Les effets hallucinogènes de la drogue LSD ou diéthylamide de l'acide lysergique sont découverts par hasard. Au cours de recherches pour des applications thérapeutiques, le chimiste suisse Albert Hofmann met au point en 1938 à partir de l'acide lysergique extrait de l'ergot de seigle, le LSD. Les propriétés psychiques particulières du LSD ne seront découvertes que 5 ans plus tard. Lorsque Hofmann ingère à son insu une très faible quantité après une manipulation de laboratoire, le LSD provoque avec une dose infime une profonde fraise hallucinogène pendant plus de 2 heures. On termine le 16 avril 2007, fusillade de Virginia Tech. L'université de Virginia Tech est le théâtre d'une nouvelle tuerie. Cho Sung-hui, un élève d'origine coréenne, tue deux personnes dans le campus vers 7 heures. Les autorités considèrent ce double meurtre comme un événement isolé, mais invitent les élèves à la prudence par mail tout en commençant l'enquête. Pendant cette période, les tueurs compilent et envoient des documents aux médias par la poste expliquant les gestes qu'ils s'apprêtent à commettre. Vers 9h30, ils pénètrent armés dans les bâtiments de l'université et tirent sur les étudiants et professeurs afin de se donner la mort. Ils tuent 32 personnes en l'espace de quelques minutes. C'est le plus lourd bilan d'une fusillade en milieu scolaire de l'histoire des États-Unis. Loin devant la tragédie de Columbine en 1999, celle-ci s'était soldée par la mort de 15 personnes. Chers auditeurs, c'était notre l'histoire d'aujourd'hui, ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir à tous, voici la mise au point et pour le titre. L'Indonésie et la Turquie ont convenu d'intensifier la coopération. La réunion de l'Organisation de la coopération islamique OCI en Turquie les 14 et 15 avril est utilisée par l'Indonésie et la Turquie pour discuter les relations bilatérales. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a mené une réunion bilatérale avec son homologue de la Turquie, Mevlut Cavusoglu, en marge de la réunion de l'OCI. C'est ce qu'a informé le communiqué de presse du ministère indonésien des Affaires étrangères, accepté par les médias à Jakarta le jeudi. La ministre Retno a affirmé que la séance de la commission conjointe Indonésie-Turquie dans le domaine économique se tiendra dans un proche avenir pour augmenter la valeur commerciale des deux pays. C'était l'un des résultats des entretiens des deux ministres des Affaires étrangères. La dernière séance de la commission conjointe Indonésie-La Turquie s'est tenue en 2008. La valeur commerciale de ces deux pays en 2015 a atteint seulement 1,4 milliard de dollars américains, plus bas que l'an 2014. Bien que la valeur commerciale diminue, la Turquie reste à devenir le 7e plus grand partenaire commercial de l'Indonésie en Europe occidentale et un partenaire commercial stratégique depuis 2011. Le montant des investissements turcs en Indonésie a atteint 3,9 millions de dollars américains en 2015. Le nombre de touristes turcs en Indonésie a atteint 6 000 personnes en 2014, tandis que le nombre de touristes indonésiens en Turquie a enregistré environ 58 000 personnes en 2014. En plus de la mise en œuvre de la séance de la Commission conjointe Indonésie-Turquie, les deux ministres des Affaires étrangères ont également discuté de l'accord de partenariat économique commercial global. Le décembre 2015, les délégations des deux pays ont rencontré et discuté le schéma de cet accord. Le ministre des Affaires étrangères de l'Indonésie et celui de la Turquie ont également discuté des progrès de la coopération bilatérale dans le domaine des industries stratégiques, entre autres, dans le domaine des équipements de communication de défense à la frontière et le développement conjoint de réservoirs de moyenne taille. Ils ont discuté la coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, les défis envisagés par chaque pays dans la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. La ministre Retno Marsudi a affirmé que la coopération des sens des données de renseignement est très importante à intensifier. Serge Thor, c'était la mise au point pour ce soir.
Les informations et événements de la semaine proposés au programme Mise au point. La beauté culturelle et touristique indonésienne peuvent être prouvées dans le programme de la beauté indonésienne.
actualité, des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers auditeurs. C'est un plaisir de vous rencontrer à nouveau dans le magazine culturel en programme quotidien sur le tourisme, l'alimentation ainsi que les arts et la culture de diverses régions en Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, je vais vous présenter l'alimentation typique de la ville de Bandung, nommée Seblak. Serjitor, l'Indonésie possède une diversité de coutumes, cultures et ethnies. Pas étonnant que chaque région d'Indonésie a une propre charme pour les touristes. Il y a des régions qui attirent les touristes en termes de sites touristiques naturels, la culture, les coutumes, la tradition ou les alimentations. Comme la ville de Bandung dans la province de Java West a une variété d'alimentation unique. L'une des alimentations populaires est nommée Seblak. Serjitor, Bandung est connu pour la créativité des gens, en particulier la jeune génération. La créativité varie et est infinie en termes d'art, de la culture, même dans le domaine culinaire. Seblak, qui est l'alimentation typique de cette ville, est devenu populaire depuis les années 2000. La nourriture est faite à partir des craquelins comme matière première. Seblak se compose de deux types, à savoir seblak sec et seblak humide. Pour le seblak sec, la matière de base des craquelins est servie avec une pincée de piment sec et d'autres épices. Pour le seblak humide, ce n'est pas trop facile de le faire. Tout d'abord, bouillez les craquelins crus premières, retirez et égouttez. Ensuite, faites sauter ces craquelins avec les épices composées de l'oignon, l'ail, le sel, le kencur ou camphoria galanga et le poivre de Cayenne. Serjitor, jusqu'à présent, ce blanc était encore populaire parmi les touristes. Cela est évident par l'augmentation d'étal de cette alimentation dans divers endroits à Bandung. Donc, il est assez facile pour les touristes qui veulent goûter ce blanc. Le prix de cette alimentation varie de 10 000 rupiah à 15 000 rupiah. Serjitor, ce blanc humide est peu cherché par les touristes et les indigènes de Bandung. Par conséquent, ce blanc humide est de plus en plus varié. Donc, maintenant, ce blanc ne contient pas seulement une variété de craquelins, il y a aussi d'autres choix ou peut être combiné en conformité avec la demande d'autres ingrédients tels que des œufs, des saucisses, les boulettes de viande, la griffe, des nouilles, kway tiao et spaghetti. Ce blanc humide a le bouillon épicé. Par conséquent, il est approprié quand le seblak est consommé dans la saison de pluie. Si vous prévoyez un voyage ou étiez à Bandung, ne pas oublier de goûter cette nourriture populaire. Chères auditrices et chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre « L'alimentation typique de Bandung, Seblak ». Demain, nous nous retrouverons avec un nouveau sujet plus intéressant encore. À bientôt!
les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec la rubrique de l'Indonésie en couleurs. Le sujet de l'Indonésie en couleurs pour ce soir est la clinique ferroviaire de KAI, Société Anonyme. Cette clinique ferroviaire est une forme de la responsabilité sociale de l'entreprise de Kereta Api Indonesia KAI, Société Anonyme. L'établissement de la clinique ferroviaire par KAI Société Anonyme vise à servir la communauté d'Indonésie, notamment au secteur de la santé, en profitant le chemin de fer, si bien qu'on puisse atteindre les régions qui ne peuvent pas être atteintes par les véhicules. Le procès de production était commencé en octobre 2015 et elle était lancée le 12 décembre 2015 comme première clinique ferroviaire en Indonésie, de station Pasar Senen, Jakarta. À première vue, une série de cliniques ferroviaires est similaire à une série de trains en général. La série se compose de deux trains diesel, mais équipés de feux et sirènes, similaires aux ambulances et une croix rouge. Entrant à l'intérieur du train, puis les différences évidentes entre le train de la santé avec des trains réguliers. Des rangées de chaises qui sont généralement dans les trains réguliers n'existent pas dans le train créé par la fille d'Eddy Sukmoro, Clarissa Sukmoro. Le train est étouffé, plein de matériel médical, conformément à la fonction de la pièce. Dans le premier wagon, l'ensemble de l'action médicale peut être fait. Ce wagon est divisé en trois parties, à savoir la salle de contrôle de médecins, la chambre d'examen dentaire et de laboratoire. Le second chariot est équipé des salles d'examen des femmes enceintes, de maternité, salle d'allaitement, salle d'examen public et espace pharmaceutique. En dépit de la taille limitée de la salle d'accouchement, 2 x 3 mètres, mais la chambre est équipée d'équipement de la livraison complète. Selon Eddy Sukmoro, si l'opération du train de santé est considérée satisfaisante, on va construire les autres trains de santé pour être déployés dans plusieurs zones étant loin de l'hôpital ou centre de santé communautaire. Le train de santé sert non seulement des services réguliers de santé publique, mais peut également être utilisé avec des trains d'assistance pour être en mesure de fournir une assistance en cas de situation d'urgence ou de catastrophe naturelle. On souhaite que la clinique ferroviaire détenue par KAI Société Anonyme puisse aider le gouvernement dans la fourniture de services de santé aux communautés dans les zones qui sont inaccessibles des véhicules ou les zones de catastrophe naturelle. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleurs. Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir ses amis de la Voix de l'Indonésie et de la Bande entière, avec moi Yubi Suryanto, le magazine de Pelanginada ou magazine de musique. Ce magazine qui présente la musique traditionnelle indonésienne et moderne. Ce soir, la Voix de l'Indonésie présente une chanteuse qui s'appelle Raisa. Elle a le nom complet Raisa Andriana. Elle est en train de planifier la sortie de son nouveau album intitulé « Femme » au 27 avril 2016. On a donné le nom Femin parce que cette fois, elle se sentait vraiment à faire elle-même. Du début à écrire les paroles, la sélection des chansons, instruments de musique, le processus de production, même aussi le label. Ainsi, selon son troisième album, se sent plus élément Femin. Avant, nous allons discuter plus loin sur Raisa. On écoute sa chanson intitulée La deuxième fois.
Jika wangimu saja bisa memindahkan duniaku, maka cintamu pasti bisa mengubah jalan hidupku. Cukup sekali saja aku pernah merasa betapa menyiksa kehilanganmu. Kau tak terganti, kau yang selalu ku nanti. Takkan ku lepas lagi. Aku pernah merasa betapa
Chers auditeurs, la proportion de Raïssa dans cet album est très grande. Il y a 9 compositions de Raïssa, des 11 chansons dans l'album. Ainsi, selon elle, cet album est la maturation de sa carrière dans le chant. En outre, parce que beaucoup de ses chansons dans cet album, elle a été en mesure de consacrer toutes les émotions ressenties jamais et le mettre dans chaque chanson. Mais la chanson La Deuxième Fois n'est pas créée par Raïssa, mais la création de l'écrivain et musicien David Starry. La chanson a été libérée le 31 mars 2016, choisie par Raïssa pour représenter les chansons de l'album. La chanson raconte son histoire d'amour avec son amant nommé Kenan Pierce. Dans son expérience, il y a de deuxièmes chances d'être ensemble et se reconnecter après avoir été bloqué. Chers auditeurs, voici une chanson intitulée « Croyez-moi », chantée duo avec Afghan.
Takkan ada keraguan.
Chers amis, la chanson Crée-moi est une chanson de la collaboration entre Raïssa et Afghan. Ils ont longtemps voulu collaborer car ils se sentaient tous deux le partenaire idéal en duo. D'un goût dans la musique, le timbre de la, et la façon de le chanter à peu près la même chose. Enfin, en 2013, ils ont écrit leur propre chanson. Après cela, cette chanson a été arrangée par Haru Rinaldi. Malgré pendant 2 ans, cette chanson est complètement intacte, mais quand ils se sont rencontrés à nouveau, soit Afghan, soit Raïssa a encore mémorisé les paroles et le ton de la chanson. Enfin, la chanson Crée-moi a été libérée le 2 novembre 2015. La chanson Crée-moi était la bande originale du film de Londres Love Story. Raïssa espère que cela représentera une atmosphère romantique duo de la chanson et était une chanson qui décrit le jour de l'amour. Eh bien, chers auditeurs, avant on termine notre magazine musical ce soir, écoutez deux chansons de Raïssa intitulées LDR et Mantan Terindah. Bonne écoute et au revoir.
Saja seandainya
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Putuskan cintaku dan saat ini engkau selalu ingin bertemu dan mengulang jalin cinta. Mau dikatakan apa lagi, kita tak satu, engkau di sana, aku di sini, meski hatiku memilihmu. Andai ku bisa, ingin aku memelukmu lagi. Oh di
toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Dirimu buatku selalu penasaran, terkadang menjauh, kadang buatku tersipu. Malu manisnya
ucapanmu membuatku tak menentu. Ku tak tahu harus bagaimana. Sungguh kau buatku bertanya-tanya dengan teka-teki-teka-tekimu. Mungkin tak ku temukan jawaban. Teka-teki-teka-tekimu. Sesungguhnya malu manisnya ucapanmu membuatku tak menentu. Ku tak tahu bagaimana. Sungguh kau buatku bertanya-tanya dengan teka-teki-teka-tekimu. Mungkinkah ku temukan jawaban. Tanya-tanya dengan
teka-teki, teka-teki-teki.
Make me feel sad. I won't let anyone.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.